Chapitre 54. Callan ajouta du petit bois dans le feu. Aussitôt, des flamèches jaillirent vers le ciel, à croire qu'elles avaient envie de se joindre à la lente descente du soleil dont la lumière orange inondait encore l'horizon occidental. Callan se réchauffa les mains au-dessus de la belle flambée, puis elle se massa les bras en frissonnant. La nuit menaçait d'être glaciale. À cause de leur départ précipité, Samuel et elle n'avaient qu'une couverture chacun. Au moins, Callan disposait de son manteau. Grâce aux branches mortes des arbres, elle avait pu s'improviser un matelas qui l'isolerait de la terre dure et froide. À présent, elle n'avait plus qu'une idée en tête, manger un peu et s'endormir comme une masse. Avant d'allumer le feu, elle avait placé quelques collets alentour. Si un lapin se laissait prendre, ça leur ferait un bon repas chaud pour le lendemain matin. Samuel s'était chargé de ramasser du bois et d'allumer le feu. Ensuite, il était allé puiser de l'eau dans le ruisseau qui serpentait non loin du camp. Callan était morte de fatigue et de faim. Sans s'être arrêté très souvent pour manger, les deux fugitifs avaient vite épuisé les vivres volés aux soldats de l'ordre. Si les collets ne donnaient rien, le menu du lendemain serait de nouveau composé de viande séchée et de biscuits quasiment immangeables à force d'être durs. Pressé d'atteindre une destination qui restait mystérieuse, Samuel avait refusé de perdre du temps à trouver de la nourriture. Pourtant, ils avaient déniché un peu d'argent au fond d'une des sacoches de sel, mais le compagnon de Callan ne voulait pas entendre parler d'une pause dans un des petits villages devant lesquels ils étaient passés. Des soldats de l'ordre devaient les poursuivre, et les agglomérations, si petites fussent-elles, seraient leur cible prioritaire. Sachant à quel point Jagang la détestait, Callan n'avait pas trouvé d'argument valable contre cette théorie. Pour ce qu'elle en savait, des soudards pouvaient être sur sa piste, se rapprochant un peu plus à chaque instant. Lorsqu'elle l'interrogeait sur leur destination, Samuel se montrait très vague, pointant simplement un index en direction de l'ouest-sud-ouest. En revanche, il répétait souvent que la jolie dame serait en sécurité là où il la conduisait. Un étrange compagnon de voyage, en vérité. En chemin, il ne desserrait pratiquement pas les dents et ça ne s'arrangeait pas lors des pauses ou le soir. Mais à ces occasions, il s'éloignait rarement de Callan, sans doute pour la surveiller et la protéger, le cas échéant, mais il semblait y avoir plus que cela. Pourquoi était-il venu dans le camp de l'ordre pour la sauver? Comme pour la destination, Callan n'était pas parvenu à obtenir une réponse cohérente. Une seule fois, il avait consenti à dire que son but était de l'aider, rien de plus. Une simple déclaration, mais qui n'expliquait rien. D'où la connaissait-il? Comment avait-il su qu'elle était prisonnière? Impossible de le savoir. Ayant remarqué qu'il la regardait dès qu'il croyait qu'elle ne s'en apercevait pas, Callan se demandait s'il n'était pas timide, tout simplement. Dès qu'elle lui mettait la pression avec ses questions, il rentrait la tête dans les épaules, se recroquevillant pitoyablement sur lui-même. Parfois, Callan avait honte de le harceler ainsi. Aux rares occasions où elle lui fichait la paix, son curieux sauveur se détendait un peu. Mais son refus de répondre donnait à réfléchir à Callan. Même s'il l'avait tiré d'un mauvais pas, elle continuait à se méfier de lui. Pourquoi cet entêtement à ne rien lui révéler? Si elle l'interrogeait, ce n'était pas par sadisme, mais parce qu'elle ignorait presque tout de son propre passé. Dans sa situation, n'importe quelle bribe d'information était précieuse. Cela dit, elle avait conscience de fasciner Samuel. Pour lui plaire, il était prêt à tout. Au repas, il découpait des tranches de viande séchée, les lui donnant les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elle se déclare rassasiée. Alors et seulement alors, il commençait à manger. À d'autres occasions, cependant, trop affamé lui-même, il ne lui donnait rien si elle ne demandait pas avec insistance. Lorsqu'elle surprenait son étrange regard jaune posé sur elle, Callan ne pouvait s'empêcher de frissonner. Samuel avait tous les comportements inquiétants d'un voleur et d'un menteur. Quand elle se couchait, la jeune femme prenait toujours garde à avoir son couteau à portée de la main. Au coin du feu, le soir, quand elle le bombardait de questions, Samuel se montrait souvent trop timoré pour la regarder dans les yeux. À ces moments-là, il semblait vouloir s'enfoncer dans le sol et ne plus jamais réapparaître. Même quand il semblait plus gaillard, Callan avait du mal à lui arracher davantage qu'un oui ou un non laconique. Cela dit, son mutisme ne paraissait pas dicté par la haine, l'arrogance ou le mépris. Non, il y avait autre chose. Une secrète faiblesse du personnage ou un mystère peu glorieux qu'il ne tenait pas à dévoiler. puisque son compagnon ne la dérangeait jamais, qu'Alan avait tout le temps de penser à Richard. Était-il mort à l'heure actuelle? C'était plus que probable, mais pas plus facile à accepter pour autant. Sa façon de manier une épée était vraiment extraordinaire. Sans lui, elle n'aurait pas pu s'enfuir et il avait sans doute payé de sa vie ce remarquable exploit. En pensant à Richard, Callan eut des frissons qui ne devaient rien au froid. Quelle nuit étrange, décidément. On avait le sentiment d'être perdu dans une obscurité glaciale, le monde devenu encore plus solitaire et encore plus hostile qu'à l'accoutumée. L'impression d'être coupé de tout torturait Callan. Pour quelqu'un qui avait perdu son passé, cela semblait logique, mais ce n'était pas suffisant pour la consoler. Que savait-elle de son identité? Rien, à part son nom, Canal Amnel, et sa qualité de mère inquisitrice qui ne lui disait absolument rien. Quand elle l'avait interrogé sur le sujet, voulant savoir ce qu'était exactement une inquisitrice, Samuel s'était contenté de hausser les épaules. Il en savait long sur la question, ça semblait évident, mais il ne voulait rien dire. Coupée du monde, Callan était également séparée d'elle-même et elle voulait qu'on lui rende sa vie. À la chiche lueur du crépuscule, elle approcha du cheval épuisé qui broutait une herbe éparse sans faire montre d'un grand enthousiasme. N'ayant rien pour l'étriller, Callan passa la main le long du corps de l'animal, le nettoyant du mieux qu'elle pouvait. Ce faisant, elle ne détecta aucune blessure, ce qui la rassura un peu. Le cheval se laissa faire et se montra même très coopératif. À l'évidence, il appréciait la délicatesse de Callan. Ayant appartenu à une brute jusqu'à ses dernières heures, il n'était pas habitué à être traité avec respect et gentillesse, mais il savait reconnaître ces deux manifestations d'amitié et il les estimait à leur juste valeur. Quand elle eut nettoyé les sabots de l'animal, Callan le gratta vigoureusement entre les oreilles. Extatique, le cheval lui donna de petits coups de naseau. Avec un petit sourire, la jeune femme continua à gratter, et l'équidé manifesta de plus en plus de satisfaction. Fermant les yeux, il s'abandonna à la joie toute simple d'être cajolé. Callan se sentait plus proche du cheval que de Samuel. Une étrange constatation. Pour Samuel, un cheval était un cheval et rien de plus. Étant pressé, il trouvait pratique de pouvoir forcer une bête à couvrir plus de terrain. Mais pourquoi le sauveur de Callan se hâtait-il à ce point ? Parce qu'il avait à cœur d'honorer un rendez-vous ou parce qu'il tenait à mettre le plus de distance possible entre l'ordre et lui? À voir son excitation permanente, Callan penchait plutôt pour la première solution. Samuel avait bel et bien un rendez-vous et il avait d'excellentes raisons de vouloir semer l'armée de l'ordre. Mais si les choses n'étaient pas plus compliquées que ça, pourquoi refusait-il de dire où il comptait amener Callan? Tandis qu'elle le grattait entre les oreilles, le grand cheval blottit sa tête contre elle, un témoignage de satisfaction spontanée et terriblement touchant. Si ça continuait, une belle histoire d'amour allait naître entre la fugitive et sa monture. Callan se demanda si elle ne se montrait pas trop froide avec Samuel. Ce n'était pas totalement volontaire, mais une certaine forme de fausseté dans le comportement de l'étrange personnage l'incitait à garder ses distances. Quand l'enjeu était très élevé, suivre son instinct devenait une qualité primordiale, comme l'avait si brillamment démontré Richard pendant la rencontre de Jala. Revenant près du feu, Callan s'agenouilla et ajouta encore du bois. Entendant soudain des bruits de pas dans son dos, elle porta la main au couteau glissé dans sa ceinture.
« Une prise !»
lança triomphalement Samuel en entrant dans le cercle de lumière du feu de camp. L'homme tenait un lapin par les pattes de derrière. Depuis le début de leur fuite, elle ne l'avait jamais vu si excité, sans doute parce qu'il crevait de faim.
« Nous allons avoir un repas chaud ce soir !»
dit Callan, ravi par cette idée. Le saisissant des deux mains, Samuel déchiqueta littéralement le lapin, le coupant en deux parties plus ou moins égales. Les yeux écarquillés de surprise, Callan sursauta quand il posa une des moitiés à côté d'elle. S'asseyant près du feu, Samuel entreprit de dévorer sa part de la belle prise du jour. Comme un fauve qui mange une proie, il arracha un lambeau de fourrure, l'avala et mordit à belles dents dans la chair qui se cachait dessous. Du sang dégoulinant sur le menton, et il s'attaqua ensuite aux entrailles encore fumantes du lapin. Pour ne pas vomir de dégoût, Callan détourna les yeux.
« Mange, jolie dame !» l'invita Samuel. « C'est très bon !»
Du bout des doigts, Callan souleva la demi-carcasse et l'expédia aux pieds de son compagnon.
« Je n'ai pas très faim ce soir. »
Samuel n'insista pas et accepta le cadeau. Callan s'étendit, cala la tête contre la selle et admira les étoiles. Pour ne plus penser à l'ignoble façon de ripailler de Samuel, elle se demanda quel lien elle avait avec Richard Rall, si elle en avait un. Leur façon de se battre se ressemblait étrangement. Ignorant où elle avait appris à manier une lame, Callan ne put rien déduire de très intéressant de cette observation. Alors que la lune montait majestueusement dans le ciel, la jeune femme songea qu'elle n'était pas obligée de rester avec Samuel. Sur une injonction de Richard, il lui avait sauvé la vie et elle lui était redevable d'une certaine gratitude. Mais cela la forçait-il à rester avec lui? Jusque-là, il ne lui avait apporté ni réponse ni véritable solution. Du coup, elle ne lui devait rien. Pourquoi ne pas lui fausser compagnie et filer vers la ville ou le village le plus proche? Parce qu'elle ignorait où aller, bien entendu. Si au moins elle avait su, même vaguement, où elle était. Mais de quel droit en demander autant? Quand il ne savait plus qui il était, où il avait grandi et quelles étaient ses allégeances, un individu ne pouvait rien exiger de la vie et du destin. Ayant tout oublié, Callan ne reconnaissait plus le pays où elle se trouvait. Les noms des villes et des villages lui échappaient, ne laissant dans sa mémoire que le souvenir des catacombes qu'elle avait explorées avec les sœurs de l'obscurité peu après sa capture. Perdue dans un monde qui ne la connaissait pas, Callan ne se rappelait rien de son enfance ou de sa jeunesse. Remarquant que la lune avait dépassé la cime des arbres, elle regarda Samuel, qui avait fini son festin depuis assez longtemps. Son épée posée sur les genoux, il polissait la lame. « Samuel ?» appela doucement Callan. L'homme sursauta comme si elle venait de l'arracher à une transe. « Samuel, il faut que je sache où nous allons. »
« Quelque part où tu seras en sécurité. »«
C'est trop vague. Si nous continuons ensemble... »«
Tu dois m'accompagner. C'est obligatoire. Allons, ne sois pas méchante. »
Callan fut stupéfié par cette explosion affective. Les yeux ronds, Samuel paraissait vraiment au bord de la panique.
« Pourquoi tiens-tu tant à ce que je t'accompagne ?»«
Parce que je veux que tu sois en sécurité. »
« Pour ça, je peux sans doute me débrouiller seul. »«
Oui, mais moi, je te conduis vers quelqu'un qui t'aidera à recouvrer tes souvenirs. »
Callan se rassit, tous les sens aux aguets.
« Tu connais quelqu'un qui a ce pouvoir ?»
Samuel hocha vigoureusement la tête.
« Qui ça ?»«
Une amie. »
« Comment être sûr que tu dis la vérité ?»
Samuel baissa les yeux sur l'épée scintillante posée sur ses genoux.
« Je suis le sorcier de vérité. Un sortilège t'a privé de ta mémoire et mon ami t'aidera à la recouvrer. »
Callan sentit son cœur battre la chamade.
Recouvrer la mémoire? C'était vraiment possible? Toutes ses autres préoccupations devenaient soudain secondaires.
Samuel ne lui avait pas dit qu'il était le sorcier de vérité. Même si elle ignorait ce que signifiait ce titre, il avait tendance à lui inspirer confiance. Cela dit, un homme aussi taciturne que Samuel semblait assez mal taillé pour dispenser la vérité aux autres, mais bon.
Quand rencontrerai-je ton ami?
« Très bientôt, elle n'est plus très loin. »«
Comment le sais-tu ?»
Samuel releva la tête, ses yeux jaunes brillant dans la nuit comme deux petites lanternes.
« Je la sens. Si tu veux recouvrer ton passé, reste avec moi. »
Callan repensa à Richard, si impressionnant avec son visage et son corps couvert de runes rouges. Dans son passé, c'était ça qui l'intéressait le plus. Le lien qu'elle avait eu ou non avec l'homme aux yeux gris. C'était sa seule chance. Richard le savait. Des ténèbres telles qu'il n'en avait jamais connues l'enveloppaient comme un linceul. C'était étouffant, écrasant et terriblement angoissant. Dena tentait de le protéger, mais elle n'avait pas le pouvoir suffisant. Personne ne détenait ce genre de magie.
« Tu n'y arriveras pas !»
dit la voix de Dena dans l'esprit du sorcier.
« Tu es au cœur même de la négation. Ta tentative est vouée à l'échec. »
Peut-être, mais c'était la seule possibilité et Richard le savait. « Je vais quand même essayer. »
« Si tu fais ça, toutes tes défenses te seront arrachées. Rester ici deviendra impossible, même une minute de plus, Richard. »
« J'ai fait ce que j'avais à faire. »
« Tu ne retrouveras pas le chemin du retour. »
Richard cria de douleur. Impitoyablement, une créature froidement déterminée à le tuer déchirait la toile de magie qui le protégeait. Attaquant de toutes parts, les ténèbres menaçaient d'envelopper leur proie et de l'étouffer. Ici, la vie n'était pas tolérée. Ce lieu était spécifiquement conçu pour entraîner tout ce qui vivait au fond d'un puits de néant. La bête avait suivi sa proie dans le royaume des morts d'où elle était issue. Désormais, elle avait l'avantage du terrain. Richard se fichait de rebrousser chemin. Pour ça, il était déjà bien trop tard. L'intrusion de la bête avait brisé son lien avec le jardin de la vie et il n'y avait rien à faire contre ce coup du sort. Fuir restait possible, cependant. Fille de la magie soustractive, la bête de sang évoluait actuellement dans un monde uniquement soustractif. En d'autres termes, Richard était piégé dans la tanière d'un prédateur. Dans le royaume des morts, personne ne pouvait l'aider. Contre un monstre soustractif évoluant dans un univers soustractif, Dena était totalement impuissante. Richard ne pouvait même pas revenir dans le hall du ciel au plafond de pierre peint de façon à imiter parfaitement le firmament. Tous ces lieux pourtant familiers étaient perdus pour lui. Des îlots de lumière dérivant dans un océan d'obscurité et dont il n'apercevait même plus les vacillantes lueurs. Alors que les griffes de la mort déchiraient la toile de magie pour atteindre son corps, le sorcier rêvait d'une seule chose, sortir de ce traquenard. Son esprit avait assimilé les éléments essentiels qu'il était venu chercher, et il n'était pas disposé à les abandonner. Luttant pour les lui arracher, la bête menaçait tout simplement de le tuer, puisqu'il n'était pas question qu'il lâche prise. Parce que s'il revenait les mains vides, revoir le monde des vivants serait parfaitement inutile.
« Je dois le faire !»
cria-t-il au moment où la souffrance explosait au cœur même de son âme. Dena l'entoura de ses bras, mais elle ne pouvait pas lui épargner ce calvaire. Même si elle brûlait d'envie de l'aider, elle ne pouvait pas combattre la bête de sang. Dans le royaume des morts, la mort de Sith défunte était la protectrice de Richard, mais cela se limitait à le guider et l'aider à trouver ce qu'il cherchait tout en le maintenant hors de portée, d'entité mal intentionnée et très puissante. Face aux horreurs susceptibles de jaillir du néant, Dena n'avait aucune défense. Comment aurait-elle pu s'opposer à une créature magique qui n'existait pas vraiment? Car la bête de sang n'était ni vivante ni morte.
« Je dois le faire !»
cria-t-il de nouveau. Des larmes brillantes coulèrent sur les joues éthérées de Dena.
« Si tu prends ce risque, je ne pourrai pas te défendre. »« Et si je ne fais rien, que m'arrivera-t-il ?»« Tu mourras ici. »« Alors ai-je vraiment le choix ?»
Dena commença à dériver loin du sourcier, seule sa main tenant encore la sienne.
« Non, mais si tu agis ainsi, je ne peux pas rester auprès de toi. »
Malgré la douleur de plus en plus forte, Richard parvint à acquiescer.
« Je sais, Dena. Merci pour tout ce que tu as fait. C'était un cadeau des plus précieux. »
Le sourire mélancolique de la mort de Sith s'épanouit comme une fleur au matin.
« C'est toi qui m'as fait un cadeau, Richard. Je t'aime. »
Au moment où les doigts de Dena lâchaient les siens, le sourcier murmura. « D'une façon ou d'une autre, tu seras toujours dans mon cœur. »
« Merci, Richard, pour ça plus encore que pour tout le reste. »
Sur ces mots, Dena se volatilisa. Dès qu'il se retrouva seul, cerné par des ténèbres terrifiantes, plus isolé que jamais dans sa vie, Richard déchaîna sur la bête une tempête de magie additive en un lieu où celle-ci n'aurait pas dû pouvoir exister. Prise entre le marteau et l'enclume, la pesante réalité de ce qui était et l'incroyable puissance de ce qui n'était pas, la bête de sang hurla à la mort, ou l'équivalent pour une créature qui n'avait ni bouche ni gorge. La contradiction ultime et irréductible, le conflit entre la vie et la mort tout simplement, devint soudain insupportable. Touché par un élément additif dans un monde exclusivement soustractif, le monde se désintégra, cessant d'être et de ne pas être dans chacun des univers. Richard eut l'impression d'être une coquille de noix malmenée par une tempête. Soudain, il sentit un sol bien réel sous ses pieds. Les jambes en coton, il s'écroula au milieu d'un cercle de crânes. Des hommes nus couverts d'étranges dessins étaient assis en rond autour de lui. Des mains amicales se posèrent sur Richard, et il entendit un flot de paroles incompréhensibles. Puis, il se ressaisit un peu et reconnut son ami, Savid Lynn. L'homme-oiseau était là aussi, bien entendu.
« Bienvenue dans le monde des vivants, Richard Osancho !»
dit une voix familière. C'était Sandalen. Le souffle toujours très court, Richard regarda les hommes d'Adobe au visage et au corps couverts de motifs tracés dans la boue dont il s'était entièrement enduit. Désormais, constata-t-il, il comprenait le sens de ces symboles. Quand il avait demandé une réunion au peuple d'Adobe lors de sa première visite au village, il avait pris les motifs pour des figures géométriques fantaisistes. Une grossière erreur. Rien n'était plus rigoureux, bien au contraire.
« Où suis-je ? » demanda Richard. « Dans la maison des esprits, » répondit Sandalen.
« Bien entendu. Les hommes assis en rond étaient les anciens du peuple d'Adobe, et Richard venait de débouler en plein milieu d'une réunion. Le village des hommes d'Adobe. Le lieu où Callan et lui s'étaient mariés, et l'endroit même où ils avaient passé leur nuit de noces. Les amis du sorcier l'aidèrent à se relever.
« Qu'est-ce que je fais ici, Sandalen ?»
Richard n'aurait toujours pas juré qu'il ne rêvait pas, à moins qu'il soit mort. Sandalen consulta l'homme-oiseau du regard avant de répondre.
« Nous espérions que tu nous donnerais des explications, Richard Osancho. On nous a demandé d'organiser une réunion pour toi, en affirmant que c'était une question de vie ou de mort. »
Richard sortit du cercle de crâne avec tout le respect requis.
« Qui a demandé une réunion ? Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un esprit. »«
Un esprit ?
Ouais, mais en réalité, c'était une étrangère. »«
Vraiment ?
Une bête volante nous l'a amenée. Mais je vois que tout ça ne te dit rien. Viens, ils t'expliqueront. »
« Qui ça ?»«
Eh bien, les étrangers. Suis-moi. »
« Au cas où ça t'aurait échappé, je suis tout nu. »
« Sachant que tu allais venir, nous avons apporté des vêtements pour toi. Ils sont dehors. Une fois habillé, tu pourras parler avec les étrangers qui t'attendent impatiemment. Ils craignaient que tu n'arrives plus. Nous te guettons depuis deux nuits, tu sais. »
Richard se demanda si les étrangers étaient Nietzsche et Nathan. La magicienne avait les compétences requises pour organiser un tel sauvetage magique. Quant à Nathan, il était curieux comme un gosse et avide d'arpenter le monde.
« De nuit ?»
marmonna Richard en sortant avec ses amis. Malgré les circonstances plus que bizarres, ils étaient ravis de le revoir. Une réaction normale puisqu'il était en fait l'un des leurs. Dehors, il faisait noir et le croissant de lune avait encore diminué. Des villageois remirent au sourcier des vêtements de fabrication artisanale qu'il enfila à la hâte. Dès qu'il fut présentable, ses amis le guidèrent dans le dédale de ruelles étroites qui séparaient les bâtiments. Un instant, Richard eut le sentiment d'être revenu à une époque beaucoup plus heureuse de sa vie. Il avait hâte de voir Nietzsche et de découvrir comment elle avait fait pour l'aider à fuir le royaume des morts. Nathan avait dû anticiper le problème qui se poserait à son descendant. Et Nietzsche, toujours très imaginative, s'était sûrement échinée à trouver une solution.
quand il lui dirait ce qu'il avait réussi à faire dans le royaume des morts, elle n'en reviendrait pas. »
L'homme-oiseau posa une main sur l'épaule du sourcier et lui parla dans sa langue au son très exotique.
Chandalen traduisit pour son ami au sang chaud. « L'homme-oiseau a parlé avec beaucoup d'ancêtres lors des réunions, mais tu es bien le premier homme d'Adobe qui revient devant ses yeux du monde des esprits. »«
C'est également une première pour moi, » assura Richard.
Sur la grande place du village, des feux illuminaient la fête qui se déroulait toujours en même temps qu'une réunion. Ravis de veiller tard, les enfants couraient entre les jambes de leurs parents, massés autour des différentes estrades sur lesquelles siégeaient les notables du village.
« Richard !»
cria une voix enfantine. Tournant la tête, le sourcier vit Rachel sauter d'une estrade et courir vers lui. À première vue, la fillette avait grandi d'une bonne tête. Quand elle se jeta dans ses bras, Richard ne put s'empêcher de sourire, sincèrement joyeux de la revoir. Du coin de l'œil, il constata que Chase approchait aussi. Encore plus grand et plus costaud que Richard, l'ancien garde-frontière faisait passer les hommes d'Adobe pour des nains.
« Chase, que fiches-tu ici ?»«
C'est proprement incroyable. Si je te raconte, tu ne me croiras jamais. »
« Dois-je t'informer que je reviens du royaume des morts? En matière d'exotisme, je te bats à plate couture. »«
Si tu présentes les choses comme ça, alors que je cherchais Rachel, ma mère est venue me voir un soir. »«
Ta mère? Chase, elle est morte depuis très longtemps. »«
Tu crois que c'est le genre de détail qu'un homme risque d'oublier ?»«
Donc ce n'était pas ta mère, à l'évidence. Tu lui as demandé sa véritable identité ?»
« Non, c'était une expérience bouleversante. Tu aurais dû être là avec moi. »«
Je crois te comprendre, » murmura Richard. « T'a-t-elle donné la raison de sa visite ?»«
Elle m'a juste dit de venir ici le plus vite possible afin d'y retrouver Rachel. Elle a ajouté que tu avais besoin d'aide. »«
De quelle aide exactement ?»«
Des chevaux très rapides. »«
J'ai aussi vu ma mère. »
annonça Rachel.
Richard regarda Chase, l'air perplexe, mais le colosse haussa les épaules.
« Tu veux parler d'Emma, la femme de Chase ?»«
Non, pas ma nouvelle mère, l'ancienne, celle qui m'a donné le jour. »«
Et que te voulait-elle ?»«
Que je vienne ici pour t'aider. J'avais mission de dire à ces gens que tu étais coincé dans le monde des esprits et qu'ils devaient organiser une réunion pour que tu puisses leur échapper. »«
Vraiment ?» dit Richard pour la énième fois.
« Elle m'a dit de me presser, et elle m'a prêté un garde pour que je voyage plus vite. Il s'appelle Gratch, et il était sacrément gentil. Il m'a même dit qu'il t'aimait. Hélas, il a dû rentrer chez lui après m'avoir déposé ici. »
Richard en resta bouche bée.
« Depuis, nous t'attendons, » conclut Chase. « La réunion a bien eu lieu. J'ai de très bons chevaux. » Et nos sacoches de sel débordent de vivres grâce au peuple d'Adobe. Nous partirons dès que tu voudras.
Nous ?
Je suis très bien ici, mais nous avons beaucoup de choses à nous raconter, et ma mère m'a dit que tu voudrais filer au plus vite en direction de Tamarang.
Tamarang ? C'était la destination de Zed ?
Là-bas, le vieux sorcier n'était pas le centre d'intérêt majeur du sorcier. L'ouvrage écrit par Barakus 3000 ans plus tôt, l'héritage de Richard en fait, était caché dans le château, à un endroit où personne ne pouvait le découvrir. Richard avait plus que jamais besoin de ce livre. Jusque-là, Barakus l'avait déjà beaucoup aidé à traverser l'espace et le temps, et le secret requis pour ouvrir les boîtes d'Orden se trouvait peut-être dans le texte.
« Tamarang !» Le sortilège qui m'a privé un moment de mon don est dessiné dans une grotte sacrée de ce foutu royaume. « Je l'ai neutralisé !»
déclara fièrement Rachel.
« Sans blague ?»
s'étonna Richard.
« Nous avons beaucoup de choses à nous dire, »
fit Chase.
« Mais ce n'est pas le bon moment. Si j'ai bien compris, Richard, le temps presse parce que tu as seulement jusqu'à la nouvelle lune pour agir. »
« Je n'atteindrai jamais le palais avant la nouvelle lune, »
soupira Richard.
« La distance est trop importante. »«
Ton objectif n'est pas le palais du peuple, mais Tamarang,
souligna Chase. Richard le saisit soudain par le bras.
Conduis-moi jusqu'aux chevaux, vite, parce que je n'ai plus beaucoup de temps.
C'est exactement ce que m'a dit ma mère, approuva Chase.